Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Enfin, les juristes s'y intéressent. Je parle de la guerre économique que les hommes et les femmes de droit ont souvent considérée comme un concept mou, voire comme une affabulation de soi-disant théoriciens du complot. Aujourd'hui, ils reconnaissent sa réalité, sa pertinence et se penchent dessus pour étudier ses implications sur le droit international. Pour en parler, je reçois Arnaud de Danteuil, professeur de droit à l'Université Paris-Est-Créteil, qui supervise un ouvrage collectif récemment publié aux éditions Pédone et intitulé « Une approche juridique de la guerre économique ». Bonjour Arnaud de Danteuil.
Bonjour.
Alors, ce bouquin, c'est le fruit d'une journée d'études qui a eu lieu en septembre 2021 sur la guerre économique. Mais il commence mal parce qu'il commence par un propos d'un professeur de droit de la Sorbonne, professeur Sorel, qui doute de l'existence de la guerre économique.
Absolument. Alors, il en doute, comme nous tous, un petit peu juristes de droit international, non pas que nous soyons attachés à une quelconque théorie du complot, mais c'est vrai que je crois que la guerre économique est un concept qui a été très peu utilisé par les juristes, tout simplement parce que le droit international, c'est un droit qui gère des situations de tension, des situations de conflictualité, pas forcément ouvertes et militaires, mais parce que finalement, les relations internationales ont toujours été une forme de guerre plus ou moins ouverte, et notamment de guerre économique. Et donc c'est probablement pour ça que le droit international ne s'y est pas intéressé tout de suite, en tout cas les juristes de droit international ne s'y sont pas intéressés immédiatement, parce que ça fait partie pour nous, ce que certains appellent la guerre économique, ça fait partie des relations économiques normales.
Normal. Si je puis dire. Vous n'aviez jamais, enfin quand je dis vous, hein, je parle des enseignants, des universitaires, identifié le champ de la guerre économique comme un champ autonome pouvant être étudié.
Alors certains l'ont fait certainement, ouais. Mais c'est vrai que c'est l'utilisation du concept nous paraissait peut-être un peu, en tout cas moi me paraissait peut-être un peu surabondant, dans la mesure où oui les relations économiques internationales n'ont jamais été des relations extrêmement pacifiques, et que même entre des pays amis alliés très étroitement très proches, comme je sais pas les pays européens, les États-Unis par exemple. Il y a une tension économique qui est palpable depuis 1945 et que même le plan Marshall, on sait très bien que c'est une aide qui a des velléités économiques derrière. De sorte que utiliser le terme de guerre, qui en plus pour les juristes de droit international renvoie évidemment à une réalité différente qui est la réalité militaire, et contre laquelle le droit international aussi a essayé de s'élever depuis plusieurs décennies, l'utilisation de ce terme était probablement un peu considéré comme un peu excessive, et comme ne correspondant pas à l'exacte réalité de ce que sont les
relations. Pourtant, il y avait la guerre froide, et là, c'est un concept juridique utilisé par les juristes. Du coup, comment vous définissez-vous la guerre économique ?
Ça, c'est une question très compliquée en réalité, parce que cet ouvrage, c'est un peu une tentative pour, c'est une première approche de la guerre économique, et vous avez vu qu'il n'y a pas véritablement, il n'en sort pas véritablement une définition de la guerre économique. Donc ce que je dirais, c'est que simplement, peut-être que la guerre économique, ce serait cette zone grise entre alors, la situation de conflictualité militaire et la situation de relations pacifiques et de coopération, comme on a par exemple entre les États membres de l'Union européenne. Là, il n'y a pas de guerre économique à proprement parler. Mais entre les deux, avec des pays alliés, avec lesquels nous ne sommes évidemment pas en guerre, il y a des relations qui sont faites de tensions économiques, encore une fois, avec les États-Unis, avec la Chine. Ce n'est pas du tout la même relation, mais on pourrait dire qu'il y a une forme de guerre économique parce que on va subventionner davantage ces entreprises, on va filtrer davantage les investissements qui viennent de ces pays-là, on va augmenter les droits de douane de temps en temps. Donc la guerre économique, c'est ça. Ce serait des gestes inamicaux qui ne sont pas forcément illégaux et qui sont aménagés par le droit
international. Qui sont moins déloyaux.
Qui sont au moins déloyaux et qui visent surtout à satisfaire ses intérêts propres et pas forcément des intérêts collectifs qui seraient partagés par l'ensemble des États.
Et dans ce livre, il y a quand même une tentative, on le sent dans tous les papiers, de faire de la guerre économique un concept juridique. Donc vous avez envie de travailler dessus.
Absolument, mais parce qu'il y a probablement une matière à explorer de ce côté-là, parce que on le constate évidemment, depuis quelques années, quelques décennies, même les relations internationales se tendent, et sans parler même de conflits ouverts, l'ère n'est plus à la coopération, à la mondialisation heureuse, si si je puis dire. Et donc, le droit international a toujours accompagné ces mouvements-là. Le droit international accompagne les relations internationales, il suit les relations internationales. Et donc, les relations internationales allant vers une situation qui s'apparente probablement à une guerre économique, le droit international doit suivre. Donc, l'objectif, c'était effectivement d'analyser ce que le droit international offre aux États et aux entreprises pour combattre, si j'ose filer la métaphore, dans cette guerre économique.
Ou au moins encadrer une espèce de convention de Genève sur le droit de la guerre, qu'on pourra appliquer sur la guerre économique.
Oui, c'est un peu ça. Même si en réalité, c'est même tout à fait ça. Même si en réalité, ces règles, elles sont très anciennes. Ouais. Et les règles du GATT, par exemple,
échelle de l'OMC.
Voilà, l'OMC après. Ouais. De nouveau, subventionner son industrie et du coup faire face à des contre-mesures de l'État d'en face parce qu'il estime que c'est déloyal, etc. C'est le commerce international. Ça a toujours existé.
Alors, il y a dans ce livre un certain nombre d'armes de guerre économique. Lesquelles vous citez-vous ?
Alors, effectivement, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à avoir une approche complètement transversale, c'est-à-dire c'est des armes par discipline. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'outil fiscal, par exemple. Voilà. On va utiliser la fiscalité sur les entreprises locales ou étrangères. On va utiliser la propriété intellectuelle pour
la monnaie.
La monnaie, évidemment. Ouais. Le filtrage des investissements dont je parlais tout à l'heure. Les outils économiques classiques, type subvention, droit de douane, accès au marché, etc. Donc en réalité, on a tout un spectre comme ça de mesures. Et l'objectif de l'ouvrage, c'est effectivement de montrer comment tous ces outils, finalement, s'inscrivent dans une logique d'ensemble qui pourrait être celle de la guerre économique.
Les anglo-saxons parlent de weaponisation des armes économiques, donc ce que nous on pourrait appeler l'arsenalisation de la guerre économique. C'est un terme que vous acceptez ou pas ?
Oui. Si on s'inscrit dans cette logique de guerre économique, encore une fois, oui, on
peut. Est-ce que vous le sentez justement ?
Oui.
Cette arsenalisation, ce réarmement économique d'un certain nombre d'États.
C'est indiscutable. Mais je crois que c'est lié aussi à une sorte de. Alors, j'aime pas beaucoup le terme, mais un peu de démondialisation, en tout cas de réorientation de la mondialisation. On a quand même beaucoup ouvert les barrières pendant quelques décennies, et singulièrement dans la décennie 90. Aujourd'hui, on assiste quand même à un retour de bâton, mais pas seulement pour des raisons de guerre économique, aussi pour des raisons environnementales et sociales, parce que aller faire construire des produits à l'autre bout du monde dans des conditions déplorables, aujourd'hui, c'est une préoccupation qui évidemment anime les consommateurs de certains pays. Donc ça fait partie d'un ensemble. Mais oui, bien sûr qu'il y a un durcissement et les frontières sont moins ouvertes aux flux économiques qu'elles ne l'étaient.
Alors pour vous, quels seraient les forums où des hommes comme vous pourraient discuter de ces problématiques-là ? Est-ce que c'est l'ONU ? Est-ce que c'est l'OMC ?
Oui, je pense que ça doit être l'un et l'autre avec les faiblesses que l'on connaît de l'un et de l'autre, pour ne citer que l'ONU et l'OMC. Mais je crois que c'est aussi peut-être l'occasion pour ces forums qui, aujourd'hui, sont affaiblis par différentes considérations, tout simplement parce que ce sont des forums qui sont entre les mains des États. Et donc les faiblesses ne sont pas inhérentes à ces institutions-là, c'est lié à la politique interne de certains États. Mais c'est peut-être aussi l'occasion pour ces institutions de reprendre un petit peu, de revenir un peu sur le devant de la scène et de redevenir des vrais forums de discussion et de négociation. Il se passe des choses aux Nations Unies. Il ne faut pas oublier que la Russie est toujours membre du Conseil de sécurité, qu'elle propose des résolutions. Et derrière l'écran quand même d'apparence, il ne faut pas oublier que ce sont des institutions qui travaillent et que même à l'OMC, il se passe des choses.
Est-ce que justement vous sentez qu'on travaille sur ces problématiques de durcissement, d'arsenalisation de l'économie ?
Oui, mais probablement pas en ces termes-là. On y travaille pour justement essayer de faire en sorte que ces outils, ces armes, si je puis dire, soient utilisés toujours à des fins pacifiques et dans l'objectif que s'est donné l'institution au départ. Et l'OMC, c'est le développement économique. L'OMC a toujours autorisé les États à se défendre, de nouveau. Hein. Mais l'objectif est que cette situation de conflictualité économique n'obère pas la finalité profonde qui est soutenir le développement économique de ceux qui en ont le plus besoin. Donc c'est plutôt sous l'angle d'une réhabilitation de l'objectif initial.
Et le droit, arme de guerre économique ?
Oui, alors ça, c'est un sujet aussi, c'est un sujet très complexe, hein, ouais. Sur lequel j'ai moins travaillé, mais oui, évidemment. Et on
détourné,
voit que,
droit détourné.
Détourné, mais quand même, parce que les États-Unis l'ont fait pendant très longtemps, notamment avec des règles extraterritoriales. L'Union européenne, pendant très longtemps, s'en est défendue. Elle s'y met quand même beaucoup et très largement. Et puis le droit est une manière de défendre un modèle économique aussi. Le imposer à ces entreprises un devoir de vigilance, bon, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais le fait est que c'est un choix idéologique pour indiquer quelle mondialisation on veut.
Réveil de l'Union européenne, vous le voyez, vous, à travers notamment l'article que vous publiez dans ce livre sur le filtrage des investissements étrangers.
Absolument. Ça c'est intéressant parce que c'est un outil alors qui existait mais pas dans cette forme-là précédemment dont l'Union européenne s'est dotée en 2019.
Oui.
Vous voyez, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une arme un peu nouvelle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un dispositif qui permet donc de refuser des investissements étrangers et que les critères pour refuser des investissements ne cessent de s'allonger et de s'étendre. Et on voit bien quand on regarde quels sont les investissements filtrés. Ce sont des investissements qui viennent de certains partenaires économiques, des pays avec lesquels nous ne sommes évidemment pas en guerre, et personne ne souhaite que l'on soit en guerre avec eux. Il n'empêche que, pour ne pas la citer, il y a quand même beaucoup d'investissements venant de la Chine qui sont l'objet de ces filtres.
Merci Arnaud de Nonteuil pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.